Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mary Poppins sera donc de retour au cinéma mercredi dans une histoire inédite et toujours sous la forme d'une comédie musicale. On en découvre de nombreux extraits dans un instant et puis nous entendrons l'équipe du film avec Steven Bellery et Stéphane Boutsock. Rendez-vous au 3210 pour gagner par ailleurs des places et des bandes originales. À suivre aussi les coups de cœur et autant d'idées de cadeaux au rayon bande dessinée avec Arnaud Mulpa. On découvrira un superbe album de Manara sur le peintre Caravage. Et au rayon jeunesse, nous aurons plein de surprises avec Laurent Marsic. Et puis à la télévision ce soir, un nouveau téléfilm de Noël sur TF1 à 21h avec Brigitte Fosset. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Ça fait plus d'un demi-siècle qu'elle nous avait quittés, retournant dans les nuages. Là d'ailleurs, d'où elle était arrivée. Bonne nouvelle, Mary Poppins est donc de retour. Stéphane Boutsock et Steven Bellery, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Disney propose donc mercredi, à la suite des aventures de cette nounou, définitivement pas comme les autres.
Oui, les années ont passé. Jane et Michael, les enfants de la famille Banks, ont bien grandi. Michael est devenu papa de 3 garnements, aussi dissipé que lui au même âge. Sa femme est morte. Il risque de perdre sa maison londonienne, convoitée par un méchant banquier qui est aussi son patron. Heureusement, Mary Poppins va prendre les choses en main avec l'autorité et la magie qu'on lui connaît. C'est Emily Blunt qu'on a vu dans Sicario ou dans Sans un bruit récemment qui redonne vie au personnage créé par Julie Andrews dans le film de 1964.
I was momentarily nervous.
J'ai d'abord été nerveuse, simplement parce que c'est une icône et que dans la version originale, c'est Julie Andrews, elle-même une icône, qui joue le rôle. Ensuite, honnêtement, mon excitation a pris le dessus sur la peur et je me suis dit, c'est un personnage si délicieux, si charmant à jouer qu'il fallait que je me concentre là-dessus, sur la chance que j'avais d'incarner quelqu'un comme cela. Et il faut remercier Rob Marshall d'avoir su préserver une certaine intimité sur le plateau pour que rien ne nous semble insurmontable. Bien sûr, nous savions tous à quoi nous nous attaquions et partagions ce sentiment de se dire « Oh mon Dieu, comment va-t-on faire? Comment trouver notre propre place ?» Mais avant tout, nous étions déterminés à honorer le film initial, mais aussi à avoir le courage d'inventer quelque chose de nouveau.
C'est donc Rob Marshall, réalisateur de Chicago ou de Nine, qui met en scène l'esprit, un film fantastique, de la fantasy et un fond plus grave, émouvant.
Gosh, I was daunted at first, I have to say.
J'étais submergé au début, je dois dire, car ce film signifie beaucoup pour moi. C'est le premier film que j'ai vu en étant enfant, j'avais 4 ans, et il a changé ma vie en m'offrant une nouvelle manière d'envisager la vie. Il y avait la musique, la danse, du merveilleux, de la magie. Ensuite, je me suis rendu compte que même si j'étais nerveux à l'idée de m'y attaquer, ce film comptait tellement et intimement pour moi que je voulais être la personne qui le réaliserait, qui protégerait l'esprit du premier film et le pousserait vers une nouvelle forme de comédie musicale.
On l'entend, Steven, la musique et les chansons de ce nouveau Mary Poppins sont au cœur du film.
Oui, c'est une vraie comédie musicale, ultra classique, un tantinet kitsch, mais réjouissante. C'est le compositeur Mark Chaiman à qui l'on doit les bandes originales de La Famille Adams ou Sister Act qui signe les 27 morceaux, une partition déjà nommée aux Golden Globes. Il faut dire que les 13 vraies chansons qui ponctuent l'intrigue sont à la fois émouvantes et ciselées et aucune n'arrive comme un cheveu sur la soupe pendant le film. Et c'est en cela une véritable réussite. Avec Mary Poppins, Rob Marshall signe sa première vraie comédie musicale inédite.
Les chansons sont vraiment incorporées à l'histoire. Vous avez un dialogue dans une scène qui se termine et qui se poursuit immédiatement dans une chanson. Ça doit être parfaitement fluide, comme un seul bloc, une séquence unique. Quand je travaillais, j'étais obsédé par les transitions pour amener la chanson et pour en sortir. C'est fondamental pour faire une bonne comédie musicale. Et non pas ces films musicaux embarrassants où l'on se demande pourquoi ils chantent tout à coup. Vous savez, j'étais danseur au début de ma carrière et ça m'a amené à la chorégraphie, puis à la réalisation. D'ailleurs, beaucoup de mes héros ont eu le même parcours comme Stanley Donen ou Bob Fosse et j'essaye de suivre leurs incroyables chemins.
Follow in their amazing footsteps.
So hold on tight to those you love and maybe soon from up above you'll be blessed, so keep on looking high.
À la base, Stéphane, rappelons qu'avant même le premier film de Disney, Mary Poppins est une héroïne de la littérature.
Oui, imaginée en 1934 par l'Australienne Pamela L. Travers, c'est elle qui a inventé ce personnage à la fois hautain, charmeur, dévoué. Rob Marshall a trouvé dans ses bouquins une inspiration très moderne puisqu'il situe son film dans les années 1910, marqué par la crise, les heures sombres, histoire dans laquelle Mary Poppins est donc de retour avec son parapluie, normal, on est à Londres, son cabas magique et son petit caractère. Emily Blunt.
She's imperious. She thinks she's better than
elle est autoritaire, se croit supérieure aux autres, mais elle est également très complexe, pleine de mystère. On sait quelles histoires refoulées hantent les super-héros, mais on ne sait rien d'elle et son histoire n'a pas d'équivalent. Donc elle reste énigmatique et en même temps à la fois pragmatique et magique. J'aime l'idée que face à elle, les gens se posent plein de questions, comme quel peut bien être le plan mystérieux qui l'amène auprès de la famille Banks.
Are waiting in the place where the lost things go.
Steven, la comédienne, a dû se plier à une double discipline pour incarner le personnage, à la fois celle du chant et celle de la danse.
Oui, on l'entend, c'est Emily Blunt là, qui chante. Oui, après Into the Woods, déjà réalisé par Rob Marshall, Emily Blunt retrouve un rôle chanté et dansé. Elle y apparaît bien plus à l'aise, grâce notamment à plusieurs semaines de répétitions intensives avant le tournage.
Je crois que l'on est devenu presque une compagnie. C'est comme si nous étions en train de préparer un spectacle pour Broadway. Ça nous a vraiment permis de nous plonger dans les chorégraphies, de les intégrer. Les tableaux musicaux sont tellement énormes qu'il nous fallait beaucoup de temps de répétition. Chanter est un peu moins intimidant pour moi aujourd'hui, ce n'est plus le défi que ça a pu être. Ces chansons, ce sont vraiment des costumes sur mesure pour moi. J'ai eu la chance de les chanter pendant des semaines, avant même les répétitions. Et quand on a commencé à tourner, elles coulaient dans mes veines. Par contre, danser, ce n'est vraiment pas normal pour moi. J'ai vraiment dû apprendre et me jeter à corps perdu pour tenter d'être la plus persuasive possible. Mais ça ne veut pas dire que ça devient naturel pour vous.
So open it up and take a look, 'cause under the covers one discovers that the king may be a crook. Chapter titles are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook.
A cover is not a book, l'un des tableaux les plus réussis de Mary Poppins, qui a nécessité 8 semaines de répétition. Mais ça n'a pas été la scène la plus compliquée du film pour Emily Blunt, car Mary Poppins s'est toujours volée, oui, et pour de vrai, sans trucage, ou presque.
Did I learn how to fly on a wire?
Est-ce que j'ai appris à voler? Oui, au bout d'un câble, aidé par plusieurs hommes qui me soulevaient. J'avais un peu peur de la hauteur parce qu'ils m'ont quand même perché à 20 mètres dans les airs pour la scène de mon arrivée et j'étais franchement terrorisée. 10 mètres, ça m'aurait convenu, mais 20, c'est beaucoup trop. Et ce n'est pas un effet spécial, non, non, c'est bien moi.
It's not a special effect, it's me.
Alors, la question qu'on se pose tous sur le fond, Stéphane, Steven, êtes-vous convaincu par ce retour de Mary Poppins?
Alors, les décors sont impressionnants. Le Londres, réel ou recréé en studio, est vraiment magnifique. Les effets spéciaux sont malins. Il y a notamment une séquence sublime d'animation traditionnelle qui mêle dessins animés et personnages de chez Redos, comme dans l'original. Emily Blunt, parfaite dans le rôle. Les enfants aussi, ou encore Colin Firth qui joue le méchant. Manque pour moi un zeste de vraie folie, de grâce, en fait, derrière la démonstration. Et puis alors, c'est un petit peu trop long. Certains numéros dans ces chantés auraient franchement mérité d'être raccourcis.
Steven.
Trop long, je suis parfaitement d'accord. Il est toutefois plus court que le film originel. Emily Blunt est épatante, déjà nommée aux Golden Globes. Elle livre une prestation impeccable, légèrement snob, subtilement piquante. Et là arrive mon regret. Oui, nous sommes en pleine grande dépression. Ça n'empêche pas qu'il y aurait eu un petit soupçon d'humour en
ça
plus.
Ça aurait
été
mal,
bienvenu.
Ouais.
Et j'ai un petit bémol, moi, pour Lin-Manuel Miranda, qui est celui qui joue le nouveau personnage, celui qui allume toutes les lumières de Londres, qui est un rappeur, un auteur très connu aux États-Unis, qui joue ici son premier grand rôle. Le costume est un petit peu grand pour lui.
I love never thought of things that way.
She never thought of things that way.
Now Wednesdays are my favorite day.
Now Wednesdays are my favorite day.
Cause that's the day I'm quite contrary. And now thanks to God and Mary, I have changed to be exact. I love the fact the world is turning to love.
Nous vous offrons ce matin des places de cinéma et des bandes originales du retour de Mary Poppins, le film de Rob Marshall, à découvrir au cinéma mercredi. Il faut pour cela répondre à la question que vous pose Stéphane.
Comme dans le premier volet en 64, dans quelle ville se passe l'histoire de Mary Poppins? Est-ce Londres ou est-ce New York?
Votre réponse au 32-10. Merci beaucoup Stéphane.
Vaut mieux un parapluie.
Oui, vaut mieux un parapluie. Voilà. Vous avez été aidé. Dans un instant, les audiences télévisées de notre week-end avec Isabelle Morini-Bosque. Restez avec nous.
RTL, laissez-vous tenter, 9h10.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Première incursion de la télévision dans cette émission, ce sont les audiences du week-end avec Médiamétrie, Isabelle.
Parfaitement. Vendredi, égalité quasiment parfaite entre l'aventure Robinson de TF1 et la rediffusion du polar de la 2 Imposture avec Laura Smet. 3 100 000 téléspectateurs pour chacune des deux chaînes. Donc, avantage léger à la 2, car rediffusion. Samedi, TF1 se refait grâce aux Miss, près de 7 400 000 fanas devant le concours de beauté. Le double de Mongeville, deuxième sur la 3. Quant à hier, c'est sans surprise Suicide Squad, j'ai détesté, qui est en tête sur TF1, plus de 5 millions de téléspectateurs. Devant Le Père Noël est une ordure sur la 2, 3 600 000 fidèles. Et Capital fait un excellent score, nettement au-dessus de la moyenne de la case, avec près de 2 700 000 téléspectateurs. Autre gagnant du week-end, le handball féminin, qui attire à 17h30 hier sur TF1, 5 400 000 fanas. Pique à 8 100 000, c'était décidément un week-end spécial femme sur la 1.
On se retrouve à la fin de l'émission pour parler de nos programmes de ce soir. On va parler BD maintenant avec vous, Arnaud Mulpa. Bonjour Arnaud.
Bonjour Yves.
Et on va prendre la direction de l'Italie ce matin avec la sortie ces jours-ci du deuxième et dernier volume de la biographie du Caravage. C'est l'un des peintres les plus réalistes de l'histoire de l'art et cette biographie est signée Milo Manara.
Oui, et quand l'un des grands maîtres de la bande dessinée s'attaque à l'un des génies de la peinture, cela donne un album captivant. Milo Manara, hein, l'homme qui dessine les femmes mieux quiconque, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le spécialiste de la bande dessinée sensuelle, pour ne pas dire érotique.
Mais si.
Il achève donc ici ce pari un peu fou, rendre hommage à celui dont il a découvert par hasard la peinture il y a 65 ans à l'école sur un manuel de catéchisme.
J'avais 6 ou 7 ans et sur le livre, il avait une reproduction de la crucifixion de Saint-Pierre de Caravage. Et là, c'était une des images qui plus m'a frappé, m'a touché. Même beaucoup avant de savoir qu'il s'agissait de Caravage, je l'ai appris beaucoup d'années après. Et à l'époque, je pensais, mais c'est pas possible qu'à l'époque, il y avait la caméra photographique. Et donc, comme c'était possible d'avoir une image d'un réalisme, d'une puissance comme ça, étonnant. Après, quand j'ai su qu'il s'agissait de Caravage, alors j'ai compris que c'était un génie qui a fait ça.
Alors vous parliez à l'instant de Paris Fou, Arnaud, en quoi cet album se distingue-t-il d'une biographie, on va dire classique?
Manara s'est fixé plusieurs contraintes. D'abord, utiliser la palette de couleurs du Caravage au début des années 1600, palette limitée avec beaucoup de beige, de brun, de rouge, une utilisation du clair-obscur que l'on retrouve dans ce livre. Et deuxième contrainte, reproduire fidèlement les œuvres.
Oulala.
On en trouve une dizaine dans cette seconde partie, à la manière d'un copiste. Le résultat est troublant, on croirait des photos insérées dans la bande dessinée, mais non, ce sont bien des reproductions signées Manara. Alors, parfois ces tableaux sont, j'allais dire, simplement de face, mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est qu'il a dû aussi les reproduire sous des angles différents, dans des perspectives différentes, selon les besoins du récit. Un vrai travail d'orfèvre. Je lui ai demandé si finalement il ne préférait pas s'en tenir aux jolies filles. Il m'a dit non, ce sont les contraintes du métier.
La bande dessinée, c'est plutôt dur. C'est une discipline plutôt sévère, fatigante, parce qu'on est obligé à dessiner même les choses qu'on n'aime pas dessiner. Par exemple, moi, j'aime bien dessiner un fil d'une pièce, mais après la fille, on doit dessiner la fenêtre, la siège, on doit dessiner beaucoup de choses. Et il faut faire tout ça à chaque case pour case, etc. Donc c'est un travail un peu fatigant, mais j'aime bien dessiner les costumes d'une certaine époque. Bon, j'ai commencé à publier en France avec la maison d'édition Larousse, qui faisait l'histoire de France en bande dessinée ou l'histoire de la découverte du monde en bande dessinée. Et donc, j'aimais beaucoup toujours dessiner des épisodes historiques. C'est plus difficile, évidemment, mais c'est un plaisir. C'est plus amusant pour moi qui dessinais la modernité.
Voilà, Milo Manara, je vous laisse découvrir le destin tragique de Caravage. Personnage entier, à vif, volontiers, frondeur, bagarreur, ce qui causera sa perte. Les deux volumes sont parus chez Glénat, et puis sachez que le Festival d'Angoulême consacrera une grande exposition à Manara. Ce sera du 24 au 27 janvier prochain. Il y aura du Caravage, bien évidemment, et aussi quelques jolies filles.
Alors oui, le problème après, c'est de dessiner les fenêtres, comme vient de nous l'expliquer Milo Manara. Moi, c'est la première fois que j'entendais sa voix, ça m'a fait très plaisir de découvrir aussi le son de sa voix. Oui, absolument. Allez, la littérature jeunesse avec Laurent Marsic tout de suite. Bonjour Laurent.
Bonjour.
On commence par un gros coup de cœur que vous avez eu pour un roman illustré. Il s'intitule « Les amours d'un fantôme en temps de guerre ».
Sous la plume et les pinceaux de Nicolas de Crécy. On va faire la liaison avec Arnaud, parce que Nicolas de Crécy fait surtout de la bande dessinée. Il signe là son premier roman jeunesse. Tout est merveilleux dans ce livre. Il y a de la poésie, poésie des mots, poésie des dessins d'une finesse inouïe. L'histoire est celle d'un petit fantôme, un jeune fantôme de 99 ans. C'est pas grand-chose pour un fantôme. C'est un fantôme domestique. Comprenez par là qu'il est attaché à une maison, à un lieu, mais un événement particulier va bouleverser sa vie.
J'ai perdu la trace de mes parents très tôt. Je n'avais pas 15 ans. Un soir, je me suis laissé porter par le Mistral. J'ai vu une vallée, des lumières, la mer. J'ai croisé des animaux que je n'avais jamais vus auparavant. Et quelques humains qui ont pris peur. Quelle maladresse. Je n'aurais jamais dû m'échapper ce soir-là.
Et voilà notre fantôme embarqué dans une terrible aventure. Car une menace plane sur le monde spectral. La menace, ce sont des fantômes pleins de haine. Ils ont adhéré aux idées d'un mouvement politique qui nourrit leur désenchantement, le parti des fantômes acides, les FA. Leur chef est un spectre idéologue à la logorée fascinante qui rappelle évidemment un des personnages les plus sombres de l'histoire mondiale. Nicolas de Crécy, l'auteur.
Ça vient d'une espèce d'inquiétude par rapport à, en fait, à la façon dont la démocratie est en train de tourner en Europe, ce qu'on voit depuis quelque temps, la montée dans différents pays d'un certain populisme. Cette thématique s'est dessinée il y a à peu près 2 ans, quand j'ai commencé le livre. C'était l'époque des primaires avec Trump qui commençait à monter. Donc il y avait plein de choses comme ça que je sentais, qui me semblaient inquiétantes. Et en fait, cette thématique s'est installée dans le livre petit à petit, et en fait, elle est devenue la thématique principale, même si elle est à lire entre les lignes.
Car c'est avant tout une histoire d'amour, celle d'un petit fantôme qui tombe amoureux dans une période troublée, on l'a compris. Amoureux de Lily, la petite fantomette comme lui. L'amour aussi pour un chien à qui il s'est révélé. L'amour pour une petite fille cachée dans une maison qui écrit un journal intime. Des mots et des dessins magnifiques, ça a commencé par le dessin d'ailleurs, dans ce roman. Édité chez Albin Michel Jeunesse au prix de 23,90€.
Autre coup de cœur, Laurent, pour un livre CD cette fois-ci, Ella Fitzgerald, raconté et sublimé par un célèbre Big Bang.
Celui dont David Enko, fils de la cantatrice Caroline Casazu, est un des fondateurs. Le Keystone Amazing Big Bang a déjà revisité la vie d'artistes comme Django Reinhardt et s'attaque cette fois-ci à la grande Ella Fitzgerald. Une histoire racontée par Vincent De Dienne, celle d'une jeune fille, Bess, qui en 1953 voit sa vie basculer quand la directrice de l'orphelinat où elle réside lui fait écouter un disque de la grande Ella Fitzgerald.
Bess aime tellement la voix d'Ella qu'elle réécoute le disque toute la matinée, jusqu'à en connaître chaque intonation, chaque variation. Et l'après-midi, malgré la chaleur de l'été, elle rassemble son orchestre sous l'ombre des arbres.
Chanter, mais dans l'Amérique des années 50, être noir, c'est d'abord avoir des portes qui se ferment. Bess va alors s'embarquer pour New York avec un rêve, pouvoir, comme Ella, vivre de sa voix. Au chant, c'est Lia Kameni qui a le don de vous filer des frissons, tant sa voix est diaboliquement belle. Cette histoire, en livre CD, La Voix d'Elia, est éditée chez Gauthier Langros au prix de 23,80€. Le Keystone Amazing Big Band est en tournée. Il passe demain et mercredi par La Rochelle et sera à Paris le 17 mars à la salle Playel.
Mal le Big Bang.
Ouais, très bien.
Voilà. Amazing. Merci beaucoup pour ces, oui, amazing, pour ces très très jolis rendez-vous avec la bande dessinée. Dans un instant, la télévision. Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous allons donc parler télévision avec Isabelle Morini-Bosque. On signale la fin des Rivières Pourpres sur la 2.
Oui.
Et me dites-vous, un chouette téléfilm de Noël sur TF1.
Exactement, ça s'appelle Coup de foot sur un air de Noël, j'en ai eu un. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, dans les Alpes autrichiennes, c'est joué par Barbara Cabrita, qui est vraiment très jolie, dans les Alpes autrichiennes, doit retrouver un pianiste susceptible de remplacer au pied levé l'artiste initialement prévu. J'ai adoré. Avec Brigitte Fosset, absolument épatante, en belle-mère, toujours énervée. On peut dire qu'elle enguirlande tout le monde, Noël oblige, mais c'est le sapin qui a les boules, vous verrez. verrez, magnifique sapin vivant. J'ai adoré ce téléfilm, je vous l'ai dit, où il est beaucoup question de Sissi. Vous verrez pourquoi.
La princesse ?
La princesse, la vraie, non, non. Oui. Vous verrez.
Mais c'est très... Il nous fait une espèce de suspense.
Oui. C'est très réussi.
Vous verrez pourquoi.
Bon, objectivement, c'est moins cucu que celui de la semaine dernière que j'avais déjà beaucoup aimé, Noël oblige.
Sissi, c'est pas cucu. Alors, vous avez aussi apprécié Cap Horn, une émission d'aventure dans laquelle Mike Horn conduit une personnalité au bout du monde. Ce soir, Bernard Davillardière au nord des Philippines.
Oui, il le conduit, vous savez, une personnalité au bout du monde et d'elle-même. Et déjà. J'ai aussi beaucoup aimé cette soirée dont, très franchement, je n'attendais rien. Je me disais, Bernard Davillardière, pourquoi lui? Eh bien, écoutez, j'ai souvent ri. Parce qu'on assiste en fait à une bataille de mâles dominants entre Mike Horn, l'aventurier de l'extrême habitué à diriger, et un Bernard de la Villardière qui n'aime pas du tout être dirigé et qui, de surcroît, est très soucieux de son image. Et Bernard le reconnaît très volontiers, parce qu'il a cette forme d'honnêteté. Cette image d'affrontement testostéroné n'est pas fausse.
Oui, alors j'ai déjoué le piège, parce que forcément il aurait eu le dessus, en utilisant mon second degré, et je crois que ça l'a un peu décontenancé. Donc l'affrontement n'a pas eu lieu, parce que je l'ai désamorcé grâce à mon regard un peu distancé par rapport à ce que nous vivions, c'est-à-dire un vrai déluge dans cette île du nord des Philippines. Voilà, ça a été une belle aventure, mais la pluie, la mousson qui ne se terminait pas, a fait que ça a été aussi un enfer quand même. Alors lui, en toutes circonstances, il garde son calme, il transpire à peine. Moi, j'ai sué comme un bœuf, donc je perds un peu de mon lustre, j'ai un peu peur d'abîmer mon image. Je n'ai pas de chemise blanche, j'ai des t-shirts trempés. On s'arrête la nuit dans la jungle, j'apprends à mettre une bâche.
Vous n'aviez jamais vu de près ?
Non, une bâche, jamais. La dernière fois que j'ai dormi dans un hamac, c'était chez les Yewalapiti en Amazonie. C'est Raoni qui m'avait accroché mon hamac, parce que même ça, je ne sais pas faire.
Voilà, alors Mike Horn n'a pas transpiré, mais c'est clair, Bernard l'a beaucoup fait suer, figurant dans son trio de tête des râleurs.
Il aurait voulu peut-être que j'ai un comportement plus groupie, mais je n'ai pas un tempérament de groupie, même face à un type... Par ailleurs, j'admire. J'aime les efforts violents, mais très courts. Là, malheureusement, j'ai pas pu faire illusion très longtemps. On me voit craquer, râler. Après, je sais que de toute façon, je vais aller au bout parce que j'ai une petite fierté personnelle. Je vais le bouffer, Mike. Voilà, en même temps, je pense que ça contribuera pour certains qui me trouvent un peu agaçant, justement, derrière cette fausse assurance, de voir qu'il y a malgré tout un petit homme derrière et parfois un petit garçon.
Mike Horn dit aussi que les femmes ont toutes été plus endurantes, plus calmes dans ses aventures avec lui.
Oui, parce que peut-être qu'il s'y prend mieux avec les femmes qu'avec les hommes aussi. Hein. Et il ne savait pas très bien, je pense, comment me prendre, entre guillemets, bien entendu. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait trouvé extrêmement sympathique, dans le fond.
En tout cas, je crois comprendre qu'on ne partirait pas en vacances ensemble après.
Non, une autre expédition, pourquoi pas. En vacances, je ne suis pas sûr non plus.
Voilà. Moi non plus, alors je partirai pas en vacances avec eux.
Eh bien écoutez, moi ça a été mon émission finalement préférée de toute la collection qui m'a beaucoup surprise. Les deux sont attachants, parfois attachants, et on est ému par Bernard de la Villardière, honnêtement, quand il évoque avec pudeur son cancer. Même Mike Horn, cela dit, a été perturbé par un tournage qui a vraiment été extrêmement difficile. Il avait pas tout, même Mike Horn n'avait pas tout prévu.
Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosse. C'est donc ce soir sur M6. Dans quelques instants, on vous distribue les cadeaux Mary Poppins et je pense qu'on se remettra une petite touche de chansonnette. Hein.
Bah oui,
on aime bien ça, bah oui.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Ça, c'est pas de la valse, mes enfants. Alors, la question qui vous était posée, que je vous repose d'ailleurs, dans le premier volet de 1964, dans quelle ville se passe, comme dans le premier volet de 1964, dans quelle ville se passe l'histoire du film Londres ou New York ?
London.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, nos auditeurs ?
Ils ont gagné des places de cinéma et des bandes originales.
Je vois que vous suivez, ça me fait extrêmement plaisir.
Je sais, je m'accroche.
Mais pour les fans de Mary Poppins, sachez qu'on retrouve quelques personnages du premier film qui apparaissent.
C'est pas vrai.
Mais oui.
Il y a des clins d'œil,
une
vraie jolie surprise. Oui. Merci beaucoup à toute l'équipe. Bon, bah écoutez, maintenant on va tout de suite retrouver Julien Courbet, mes enfants. Bonjour Julien.
On ne m'avait pas ouvert le micro. Ah bon. Il y a une forme de censure qui commence à s'exercer dans cette radio qui commence à m'agacer. Okay. J'étais en train de vous insulter, on m'a coupé le micro. Oh, donc du coup, on ne m'a pas entendu le dire. Et maintenant, je vais être obligé encore une fois de faire le faux cul du matin. Comment allez-vous, mon Yves ?
Taisez-vous 30 secondes, je voudrais vous dire que j'ai trouvé le capital remarquable
hier
soir.
C'est très gentil, c'était sur la truite, c'est pour ça.
entre autres.
Parce que vous aimez le poisson.
Oh, bah, elle est très poisson.
Ah, elle est très, 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 poisson, très poisson, Isabelle. Bon, tout va bien, mon Yves ?
Oui, je crois qu'on a bien démarré.
Parce que je suis dans le bain.
C'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, j'ai l'impression que les fêtes
mais
de Noël.
Mais heureusement que les vacances arrivent.
Les fêtes de Noël s'annoncent grandioses. Les 4 jours qui viennent, avant Noël, je sens qu'il va y avoir des passages en tête qui resteront dans les annales de la radio.
On va faire tout notre marché de Noël. On a commencé avec la truite.
Vous trouvez que ça sent le sapin ?
Exactement. Ça me donne les boules. Allez, on y va. C'est parti. Bonne journée à tous.